À chaque thèse, un verset est cité, mais pour aller un peu plus vite, on va laisser les citations de côté. Alors vous avez un Kemon Shenemar, et vous reprenez une deux lignes après. Non, vous allez ouvrir une parenthèse un peu plus longue. Vous allez compter à partir de là, une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes, et vous avez une ligne avant la bifurcation, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, au milieu de la ligne, Narana Rabbi Yoshua, la deuxième thèse, a répondu Rabbi Yoshua vers Maré, a dit, Tzedaka Teromem Goy, la justice élève une nation, Elou Israël, il s'agit d'Israël, dirti, parce qu'il est écrit au Mikar Mechay Israël Goy Echad Baaretz, le même verset, Vechesed Leumim Chatat, et la charité des peuples, c'est une faute. Deuxième thèse, Kol Tzedaka Vechesed, toute charité, devoir de charité, chesed, conduite de charité, chez Umot Abdekorabim, que les peuples idolâtres, Osin, et vous voyez l'opposition, les peuples idolâtres. La définition ici de la société idolâtre, c'est la distinction entre la moralité et la légalité, si j'ose dire, mais c'est plus profond encore, c'est que l'idolâtrie se définit dans la distinction absolue entre la religiosité et la moralité. C'est bien clair. Okay. Alors, toute tzedaka ou chesed que les peuples idolâtres font, osin, chet hulaen, c'est une faute pour eux, shen osin elakede, shetimashech malchutan. Ils ne le font que pour que leur société se perpétue. Alors, c'est à recoder un peu sur la première thèse, la conduite de, comment dire, de grandeur qui avait été indiquée dans la première thèse, il y a un intérêt qui est alibi de la conduite de charité dans la deuxième thèse, c'est le bien de la société, c'est dit de façon très claire. Et il y a aussi un verset à l'appui. Vous sautez une ligne, au milieu de la ligne, Na'ana Rabban Gamliel. La troisième thèse, c'est la thèse de Rabban Gamliel. Vermar, il dit, Tzedaka Teromem Goy, même raisonnement, Elou Israël, dirti ou Mika Mecha Israël, Bechesed Louim Chatat, et la charité des peuples est une faute, Kol Tzedaka Vachesed Sheakum, ça veut dire Obde Kochabim ou Mazalot, c'est la même chose que Umot Obde Kochabim, que les idolâtres Osin font, Chet ou la haine, c'est une faute pour eux, Shen Osin et la Letia Herbo, que pour s'en glorifier. Vechol amitiaher nofel begeinam, et tout celui qui se glorifie tombe dans l'enfer, versé pour fonder cela. On saute une ligne et on arrive à Rabban Gamliel. Vous voyez, ce sont des grands qui enseignent chacun leur thèse. Rabban Gamliel qui dit Adaïn anutzrichin lamodai. Jusque-là, malgré ces quatre enseignements que l'on vient de recevoir, on a encore besoin de l'enseignement du Modai. Et il y a aussi ici un humour du langage. Modai, c'est le nom d'un haram, et pas seulement d'un ministre actuel. Et Modai, ça veut dire celui qui renseigne, le Modai. Rabbi Eliezer Amodai, Rabbi Eliezer le Modai, dit, Tzedaka Teromem Goy, là ça va changer. La justice élève une nation, elle ou Israël. Il s'agit d'Israël. Dirti vumi ke amere Israël goyechad baaret. Puisqu'il est écrit, et qui est comme ton peuple Israël, nation unique sur terre. Vechesed leumim chatat. Et la charité chez les peuples est une faute. Kol tzedaka vechesed chez akum osin. Non, la structure ne change pas encore. Toute charité, devoir ou charité conduite que les idolâtres font, het hulaen, shen otzin ela le haref otanu, parce qu'ils ne le font que pour nous, le haref, pour nous, le mot m'échappe en français, le gadef le haref, pour nous, mettre en mauvaise posture, je ne sais pas comment dire ça. Ma
vous
non, c'est pas le sens de humilier. Non.
C'est comme Horef.
Non, ce serait Harif aussi, mais. Les Haref. Pour avoir bonne conscience. Le sens qu'il y a là, c'est pour nous donner mauvaise conscience et pour nous séduire. Pour. Vous voyez, par exemple, ces conduites de mission charitable qui ont pour objectif la conversion des Juifs. Voilà, c'est à cela un peu. Que cela fait allusion. Et vous suivez encore. Na'ana Rabbi Nechunia ben Akana. C'est là qu'on arrive au changement d'exposition. Jusque-là, l'explication du verset est la justice élève une nation. Je redéfinis, une nation mérite le terme de nation dans ce contexte. Lorsque la loi de la société, c'est la moralité elle-même. Alors la justice est vraiment justice. Une charité peut être charité. Mais si la justice n'est pas vraiment justice, la charité est une faute et laquelle? Et nous avons toute une série de thèses que l'on peut mettre en forme en psychologie, en sociologie. C'est clair jusque-là. Alors, Rabbi Nechunia ben Akana dit, Tzedaka teromem goy. La justice élève la nation, vehesed. Et la charité, les Israël ulumim hatat. Et là, le sens de hatat change. Tant pour Israël que pour les peuples, c'est un sacrifice d'expiation. Alors là, vous notez que Hatat du verset a jusqu'à présent été expliqué par le sens de faute. Het, Hatat, et ça a ce sens. Pas avec la même voyelle. Patah ou Kamet. Ken Hatat. Mais Hatat, finalement, signifie sacrifice d'expiation. Amar Lahem, Rabbi Yochanan ben Zakkai, le maître a dit à ses élèves, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Nirin dibre Rabbi Nechunia ben Akana. Les paroles, c'est-à-dire ce que vient de dire Rabbi Nechunia ben Akana, je les préfère, midvaray, que mes propres paroles, midibrechem, ou que les vôtres, les filles chez vous noten, tzedaka vachesed, les Israël ou l'akoum. Parce qu'il reconnaît et la justice et la charité, tant à Israël qu'aux idolâtres, dans son explication. Comme on lui avait lu, tzedaka teromem goy, la justice élève la nation. Et la charité, ajoute-t-il, chesed leumim, tant pour Israël que pour les peuples, doit être considérée comme sacrifice d'expiation, pour être considérée comme authentiquement charité, et je vais expliquer. Miklal de Huna Me'amar, du fait qu'il a dit, et je préfère les paroles de Rabbi Nechunia ben Akana, que vos paroles et que les miennes, cela implique que lui aussi avait donné un sens à ce verset, Maïri, et quel sens des Tania quand on enseigne Amar Lahem, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai avait enseigné à ses élèves que Shem Shehatat Mechaperet al Israël, de même que le sacrifice d'expiation expie pour Israël, car Tzedaka Mechaperet al Umot Haolam, de même la charité expie pour les peuples du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et après on relira en clair le sens du verset originel, ça veut dire la société qui accepte la moralité comme l'égalité est agrandi, grandi par tout comportement de justice. Mais il y a aussi des comportements d'injustice. Alors, à l'échelle individuelle par exemple, alors la charité compense comme sacrifice d'expiation les injustices de la justice reconnue. De même manière, et à un autre niveau, chez les peuples où il n'y a pas le principe de la moralité comme l'égalité, c'est-à-dire de la justice comme la loi, toute charité doit être considéré pour être une vertu authentique comme sacrifice d'expiation du fait qu'il n'y a pas de justice. C'est-à-dire, s'il y a une conduite de charité dans une société où il n'y a pas de justice, elle peut être considérée comme une vertu authentique si elle est faite dans l'intention d'expier l'injustice et non pas de se présenter comme charité. Là, c'est de l'orgueil sans fondement. Est-ce que c'est clair? Alors, en fin de compte, on arrive dans cette analyse à deux niveaux. Sacrifice d'expiation de quelle faute? Alors, chacun des rabbins avait dit de tel ou tel genre de faute. Si c'est sacrifice d'expiation de telle ou telle conduite de pseudo-charité, qui est une faute, alors ça, c'est authentique. Et il y a donc deux situations. Israël, dans le principe, toute charité est authentique parce qu'il y a la justice. Seulement, il y a aussi des injustices. Alors, la charité elle-même n'est authentique que si elle est sacrifice d'expiation des injustices. Chez les goïms, il n'y a pas de justice. Donc, toute charité n'est authentique comme vertu que si elle est sacrifice d'expiation de l'injustice. Je crois que la conscience chrétienne a perçu cela, je veux dire, en décrivant un peu la forme du comportement de ferveur. Lorsqu'un chrétien fait la charité, eh bien, ce n'est pas qu'il pense vraiment, fondamentalement, qu'il n'a pas à faire la justice et que sa charité, ça sera vraiment quand même de la charité. Il ajoute, par exemple, pour l'amour de Dieu. Ça suffit pour indiquer, d'après le Talmud, qu'il considère cela comme expiation de l'injustice. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors voilà la distinction. Alors ça, il s'agit de la tzedaka, pas du chesed. Elle est aussi authentiquement juive. C'est-à-dire que rachat, c'est peut-être pas un mot exactement à sa place ici, mais d'expiation. C'est-à-dire que, à la limite, il n'y a pas de conduite de charité authentique, sinon héroïsme exceptionnel d'une élite. Par exemple, en milieu chrétien, la charité des petites sœurs des pauvres. À ce niveau-là, il y a des conduites de charité authentiques. Lorsqu'on voit le fonctionnement de charité d'une sœur de charité, c'est de la charité, c'est clair. Mais prétendre que la charité est une vertu authentique alors qu'il n'y a pas de justice, donc y compris les ordres de charité, serait une faute. Mais si on considère cette charité comme expiation du fait qu'il n'y a pas de justice, ça redevient authentique, nous dit le texte. Et donc le sens du verset était primitivement « Tzedaka teromem goy, vresed lomim chatat » La justice élève une nation, et ça c'est Israël qui a accepté d'être jugé selon la justice en tant que nation. Je crois qu'il suffit de dire ça pour comprendre à quel point ça se branche sur les événements contemporains une fois de plus. C'est comme ça depuis la sortie d'Égypte. Mais chesed leumim chatat, ça veut dire et la charité chez les peuples et sacrifice d'expiation. Ça c'était le pshat. Ils avaient tous cette lecture. Et chacun d'entre eux voulait expliquer sacrifice d'expiation de quelle faute? De quel comportement de charité inauthentique qui est faute? Et il y a différents comportements de charité inauthentique en tant que faute. Prétendre faire la charité vraie alors qu'on attend la Légion d'honneur. Prétendre faire la charité vraie alors qu'on veut assurer la perpétuation de la société, les fameuses lois sociales, Ken. Prétendre faire la charité alors qu'en réalité on veut convertir un juif, ou un non-juif d'ailleurs, etc. Des charités inauthentiques sont des fautes. Alors on voulait expliquer quelles fautes c'était, chacun suivant son expérience. C'est clair? Alors je reviens donc à cet exemple, c'est que tous les rabbins ont le même sens des versets de la Torah. Ce qu'on appelle, apparemment peut-être finalement faux, controverse, c'est un déploiement des panimes de la Torah, c'est-à-dire des visages du verset suivant telle ou telle situation concrète de l'histoire. Et s'il y a controverse, c'est sur le diagnostic de l'histoire, jamais sur le sens de la Torah. Je crois qu'il faut bien corriger cela. Il y a une vérité et mille manières de l'erreur. Il n'y a pas différentes versions de la Torah. Il y a une lecture juste et des fautes. Alors, il y a différentes versions de la faute. De la faute de lecture. Je ne sais pas si c'est clair. Et alors par rapport à notre sujet, c'est qu'il y a quand même une distinction de nature entre Israël par rapport au problème de la justice et de la charité et les nations du monde et l'universel lui-même. Seulement, nous voyons, c'est clair, je n'ai pas besoin de reprendre la définition, Israël est la seule société, qu'il le veuille ou pas, contraint ou forcé, à être en situation de les législations où c'est la moralité qui a la légalité. Une parole juive concernant ce problème a toujours ceci comme axe. Et c'est pourquoi très souvent elle est peu ou pas comprise à l'extérieur. Et c'est extrêmement frappant de voir que, de façon plus ou moins inconsciente, l'opinion publique mondiale, de l'universel humain, ressent cela. On ne juge pas Israël sur la légalité. On juge Israël sur la moralité, alors que toute autre société n'est jugée que sur sa propre légalité. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? C'est tellement massif, comme je dis souvent, que ça finit par manquer d'humour, mais enfin, lorsqu'il n'y a pas l'aveu, que c'est parce qu'il s'agit d'Israël. Et alors si déjà, il faudrait qu'Israël puisse avoir des conditions d'existence qui lui permettent de porter un tel jugement. C'est un autre problème. Et cependant, il y a universalisme par le fait que, tant pour Israël, qui a un statut historique différent sur ce sujet, que pour les nations, la charité n'est, tant qu'il n'y a pas justice sur terre, que sacrifice d'expiation. Vous voyez à quel niveau il y a la même doctrine de la charité. J'ajoute, l'expérience me met à l'ajouter, c'est pas indiqué dans le texte, que à l'échelle individuelle, exceptionnelle, il y a des héros de la charité pure déjà dans le temps de notre monde. Mais la charité vraiment n'est vraiment charité que si la justice a été absolument atteinte dans la société. J'essaie d'exprimer cela, mais vous allez me dire si c'est suffisamment clair. Un comportement de charité vraiment ne peut apparaître que, mais non, la maba, de l'ordre du monde à venir. Parce que il n'y a aucune injustice. Alors, en plus, plus haut, il y a des actes charitables. Mais tant qu'il y a de l'injustice, les actes charitables ne peuvent pas être authentiques. Ils ne sont authentiques que s'ils sont expiation de l'injustice. Voilà, grosso modo. Mais je crois que j'ai rencontré personnellement des conduites de charité pure, surtout dans les ordres de charité qui sont absolument authentiques. Ça ne résout pas le problème moral de la société. Le problème moral de la société ne peut être résolu que par la justice. C'est la catéromème goy. Il n'en reste pas moins qu'il y a des cas de charité authentique à l'échelle individuelle. C'est clair jusque-là ? Voilà l'exemple que je voulais.
Excuse-moi. À partir du moment où on dit que la charité peut être authentique, considérée comme expiation du monde, elle n'est plus tout à fait désintéressée, puisque j'ai conscience de ma faute et je veux l'expier et je fais la charité.
C'est ça. Il y a quand même un intérêt. Vous avez raison, c'est pourquoi j'ai dit, peut-être pas dans toutes les phrases, vertu authentique. La charité n'est charité authentique que s'il est absolument désintéressé. C'est-à-dire que, pour reprendre un peu cette analyse, que j'appuie toujours sur une Mishnah du Pirkei Avot qui parle apparemment d'une autre vertu, mais qui est tout à fait dans le sens de cette question. La Mishnah dit « Ahava shi'itluya vadavar enena ahava ». Un amour qui dépend d'une raison n'est pas un amour. « Batela davar betela ahava ». Si la raison de l'amour s'annule, l'amour est annulé. Et donc, un amour n'est vraiment amour que s'il est absolument gratuit. C'est-à-dire s'il n'y a pas de raison d'aimer. S'il y a une raison d'aimer, c'est la raison qu'on aime. En tout cas, il y a ambiguïté. J'ai l'habitude de donner cet exemple, qui me vient d'un de mes maîtres d'ailleurs. Si je dis à la femme que j'aime, je t'aime parce que tu es belle, l'amour n'est pas cachère. Et d'ailleurs, pourquoi ? Ça veut dire que j'aime sa beauté, et c'est pas elle que j'aime. Alors je dois lui dire je t'aime, et en plus, grâce à Dieu, quelle chance, tu es belle. Et ça, c'est une chance. Et la règle, c'est que l'amour de quelque chose d'aimable est suspect. Donc l'amour vrai, c'est l'amour de celui qui n'est pas aimable. Ça va jusque-là. Okay. Et alors, parallèlement, c'est la même chose pour la charité. C'est-à-dire... Si la charité n'est pas vraiment don à l'autre parce qu'il est l'autre et il n'y a aucune raison d'autre, si j'ose dire, ce n'est pas encore charité. C'est cette analyse-là qui l'indique. Alors, du point de vue du sujet, c'est dit de façon très énergique, la charité ne commence à être elle-même que si la justice est absolue. Alors, en plus, il y a charité. Au-delà.
Je n'ai pas fait faute et je fais la charité.
Par exemple, ça c'est dans le monde à venir. Okay, voilà. Mais tant que je suis dans un monde où il y a de l'injustice, toute charité qui n'est pas dans l'intention d'être sacrifice d'expiation n'est pas vertu authentique. Ceci dit, j'ajoute qu'il peut nous arriver de rencontrer de ces êtres exceptionnels qui fonctionnent comme saints de la charité. Mais c'est l'objectif des chassidines, de la chassidoute. C'est la vision du monde de la chassidoute, c'est cela, le monde repose sur la charité. Or là, c'est en plus un verset. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas chasside, ça lui est très difficile de diagnostiquer qu'est-ce que c'est un chasside. Je crois qu'il y a un seul exemple dans le monde non juif, c'est les petites sœurs des pauvres. Et c'est rare. Dans le monde juif, c'est les chassidim, les vrais, il y en a. C'est pas le. Je sais pas si j'ai dit une fois cette genre de blague. Le monde de la chassidoute contemporain, c'est très souvent en français chassidoute, la moitié d'un doute. Ken.
Je ne sais pas si ça colle parfaitement au sujet, mais on a parlé des peuples idolâtres, et tu as fait une petite remarque que j'ai à peine saisie dans le cours. Est-ce que c'est encore actuel? Est-ce que les peuples sont encore idolâtres comme ils étaient?
Par rapport à ce sujet, oui. Par rapport à ce sujet, oui. C'est-à-dire qu'ils substituent leur société comme idole entre la source de l'être et eux-mêmes. Et il y a tout ce piège de l'idolâtrie de l'État. En général, et de la calomnie colossale vis-à-vis de l'État d'Israël comme tel, puisqu'on parle de cela, de projeter des risques théoriques qui vont, pour une société goy, de les projeter par définition sur une société juive, dès qu'elle est juive, donc elle est comme les autres sociétés, comme ça. Vous voyez la nature de la calomnie, okay. Et quelles que soient les bavures, bien sûr, comme on a vu tout à l'heure à l'échelle individuelle, puisqu'il s'agit d'un État, donc il y a idolâtrie de l'État. J'ai souvent l'habitude de dire, et ne croyez pas que c'est simplement un plaidoyer pro-domo, que lorsqu'on vit comme Israélien, on s'aperçoit qu'il y a ce risque qui vient de la naïveté des citoyens, de croire qu'il faut que l'État fonctionne à la manière de l'État des Goïms. C'est, en réalité, les Israéliens jouent à l'État, parce qu'on est bien obligé d'avoir un État. Sinon, on disparaîtrait. Et tout le monde le sait, d'ailleurs, en plus. Okay. Et en général, bon, bref. Et par exemple, c'est pas une blague, je le disais encore ce matin, les facteurs en Israël jouent aux facteurs. Un facteur qui se prendrait au sérieux comme facteur devrait être condamné à mort. Okay. Alors, là où c'est fusillé du regard. Là où ça devient un risque réel, c'est quand les ministres se prennent en sérieux comme ministres. Mais un vrai ministre israélien joue à être ministre. Je ne sais pas si vous le percevez. En tout cas, c'est comme ça la fondation du pays. Quand un chauffeur d'autobus se prend en sérieux comme chauffeur d'autobus, il y a une émeute. Là où c'est le pire, c'est quand les juges se prennent en sérieux comme juges. Je crois que c'est là que c'est le pire.
Avec les Goïms, ils sont obligés de jouer.
Oui.
Ils ne jouent pas, il n'y a plus de relation.
D'accord. C'est depuis que nous avons des ambassades que les ministres mettent des cravates. Mais c'est vrai, d'ailleurs. Bon, ça donne des emplois de main-d'œuvre au pays. Mais un ministre israélien normal ne devrait pas avoir de. Ça les gêne, je dois vous dire. C'est pas de l'humour gratuit, c'est réel. La société juive joue à être une société. Parfois avec beaucoup d'humour. Si vous avez lu Kishon, vous savez à quel point cet humour peut arriver à être hongrois d'origine. Mais on est bien obligé. Mais il y a dans l'âme juive le fait que le fonctionnement de l'État, c'est une blague, c'est une farce. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bon, alors c'est très délicat, c'est très dangereux, il faut bien que ça fonctionne. Oui.
Israël qui n'est pas la Torah, c'est jouer avec la raison.
Absolument. C'est, si vous voulez, un village qui est arrivé d'un coup aux dimensions d'une province puis d'un État. C'est très provincial, ces conceptions de l'État. C'est, comment dire, par exemple, Teddy Kollek est un des rares maire de sa génération à avoir pu être d'emblée un maire. Mais en fait, c'était un... normalement, il aurait dû être à l'aise dans une espèce de chef de quartier, quelque chose comme ça. Alors imaginez, d'un coup, devoir penser des problèmes à résoudre à une échelle nationale, alors que nous ne sommes habitués pendant 2000 ans qu'à vivre une vie de communauté. C'est un peu ça que je voulais dire.
Okay. C'est très difficile de faire comprendre ça parce que je me rends compte quand on n'a pas de règles, on veut simplement que ce soit la justice, les gens en face ne comprennent pas. J'ai des problèmes avec l'inspection du travail ou avec la médecine du travail parce qu'ils ne comprennent pas que je n'ai pas de règlement intérieur. Oui. Mais je ne peux pas avoir un règlement intérieur. Il y a une justice et il n'y a pas de règles.
C'est ça. Alors le grand danger, c'est que la législation, la juridiction israélienne risque de devenir une légalité. En attendant une constitution qui serait là, c'est dramatique. C'est dramatique.
Et alors, ce que je ne comprenais pas tout à l'heure quand vous disiez que les patrons attendent qu'on fasse la grève pour augmenter les salaires, c'est pas vrai, parce que une augmentation de salaire, c'est que dans certains cas, c'est un acte de justice. Il ne faut pas qu'on demande.
Voilà.
La justice, c'est le rôle du patron de l'appliquer.
Voilà, mais il y a des cas où il y a une distribution des bénéfices qui doit être faite. Et alors, à ce niveau-là, c'est chesed. L'augmentation de salaire garantie par l'État, ça, c'est tzedaka.
Okay. Non, mais il y a un moment où ce n'est plus la garantie de l'État. Si l'entreprise ou la société fait un certain bénéfice, c'est bien du coup.
C'est cela. Alors, c'est cela. C'est ça, je vais vous dire. J'ai un peu analysé ces problèmes en série d'études en sociologie. C'est que. Il y a un certain moment où c'est de l'intérêt de l'entreprise de faire un partage des bénéfices. Okay. Alors, si les patrons à qui l'entreprise appartient, pas c'est eux qui l'ont créé, n'ont pas cette sagacité que leurs ouvriers ont le sentiment qu'ils ont obtenu un droit, s'ils le donnent apparemment en cadeau, finalement, ils seront obligés de laisser la place à un soviet d'ouvriers. Et que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça risque de fonctionner, disons. Bon, c'est une analyse qu'il faut faire de façon, bien entendu, un peu plus fine. Mais je crois que ce que je voulais désigner, c'est deux catégories radicalement différentes. Ce à quoi on a droit, il faut le prendre. Ce que l'on reçoit en cadeau, on le reçoit en cadeau, c'est autre chose. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est comme ça que ça fonctionne, la nature humaine, et il y a des raisons théologiques pour cela.
Qui est occupé du collègue. Dernièrement, il a fait prise de position en disant qu'il y avait plus de communauté israélo-arabe qui était occupée. C'est un maire à maire maintenant.
Il s'est un peu rétracté. Il s'est un peu rétracté. Je crois personnellement que ce rêve de Teddy Collet a pris fin. Ce rêve de la coexistence en tant que citoyen. Oui. C'est clair. J'ai l'impression que c'est ce que nous vivons actuellement. C'est un rêve qui a disparu.
Maintenant, pour la justice, je voudrais poser une question à madame. Vous avez eu des ennuis avec qui? Avec les médecins du travail?
La médecine du
travail. Attention, la médecine du travail, elle est du travail, elle n'est pas des travailleurs. Toutes les ennuis du médical, c'est ça que je pose.
Bien. Je suis fier de moi. On est arrivé à finir un texte en une demi-heure, vous ne rendez pas compte.
La justice, je la prends en force, ça c'est mon droit. Ce à quoi j'ai droit, je prends ça, je prenez mon droit.
Ce que je veux dire, je voulais arriver à une analyse des comportements psychologiques un peu fine peut-être. C'est que celui qui a droit à quelque chose ne peut pas se satisfaire de le recevoir. Il faut qu'il le prenne. Parce que, je veux dire à quoi ça se rattache. Dans la Kabbalah, on enseigne que la conscience morale est faite de deux tendances. La tendance à donner, l'altruisme, c'est le bien. C'est le Yetzer Tov. La tendance à recevoir, l'égoïsme, c'est le Yetzer Rar, c'est le mal. Et par conséquent, il y a, pour une conscience morale droite, pure, authentique, dans le sens positif, il y a une gêne à recevoir. Parce que recevoir, c'est mal. Parce qu'on ne sait jamais si on a mérité. On a le droit de recevoir que ce qu'on a mérité. Et par conséquent, lorsqu'on a l'impression qu'on reçoit un cadeau, on est gêné. Et dans le sens étymologique, la gêne, c'est la géhenne. On est dans l'enfer. Il y a un verset pour ça. Et sonne matanot echie. Celui qui haït les cadeaux vivra. Dans le folklore juif, c'est un verset des proverbes. Dans le folklore juif, on dit les cadeaux, c'est pas bien, il faut les rendre. On préfère donner que recevoir. Et par conséquent, un droit ne peut pas être reçu. Il doit être pris. Parce que. Comment ?
Si vous acceptez de recevoir, c'est pas forcément.
Oui, on a. Oui, je veux dire. Attendez. On est à l'aise de recevoir que si on a sentiment qu'en recevant, on donne. C'est clair ? Oui. C'est un problème qu'il faut étudier en particulier dans les rapports entre parents et enfants. Et là, il faut aborder une sorte de politesse spirituelle. Il arrive qu'en disant une manière de dire merci lorsqu'on a reçu, évacue cette gêne. Parce qu'en disant merci, on a donné plus que ce qu'on a reçu. Mais il y a une délicate problématique du donner-recevoir que la Kabbalah étudie. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il y a une tendance profonde de l'être, qui est un drame. Nous sommes condamnés à recevoir pour être. Mais recevoir, c'est mal. Alors on est mal dans sa peau, comme on dit. Ça, c'est, je vous décris la psychologie juive de ce problème. Okay? Voyez à quel point la théologie du mérite est différente de la théologie de la grâce. La grâce est une grâce, et on la reçoit. Mais tant qu'on n'a pas mérité ce qu'on a reçu, le projet du Créateur n'est pas achevé. Alors, par exemple, la Torah. Il y a d'abord Matan Torah. On la reçoit en cadeau. Mais elle n'est vraiment possédée que si elle est méritée. Le biais du mérite, c'est l'étude. Alors, il y a d'abord Matan Torah, c'est la fête de Shavuot. Et après, lorsqu'on a étudié et qu'on a acquis Kinyan Torah, alors il y a Simchat Torah. Vous voyez pourquoi il y a deux fêtes de la Torah. La fête du cadeau de la Torah à Shavuot et la fête du fait d'avoir possédé ce qu'on a reçu en cadeau, qui est Simchat Torah, après le jour de Kippour. On a passé l'examen et alors il y a Simchat Torah. C'est important de percevoir cela. Et une minute, je voudrais terminer cela. Et la discussion que nous avons eue avec Rashi, dans le premier Rashi, j'ai eu la surprise en écoutant Radio Communauté ce matin, d'écouter que l'éditorial portait sur ce Rashi. C'est que, je rappelle le verset, « Koach ma'atzav igid le'amo, latet la'em nahalat goyim » La force de ses actes, il explique à son peuple, pour leur donner l'héritage des nations. Ce que les nations considèrent comme devant être reçu comme héritage, alors il raconte la force de ses actes, le récit de la création, pour dévoiler au monde que ce que Dieu donne, il faut le mériter. Vous rappelez de cela, okay? Il y a une théologie de l'héritage, si j'ose dire, une théologie de la grâce, que ce que Dieu donne, il le donne en cadeau. C'est le premier point de la religiosité biblique. D'abord, diagnostiquer la grâce d'être. On reçoit ça en cadeau. Le deuxième point, c'est de le mériter, ce que l'on a reçu en cadeau. Alors ça se rattache un peu à l'analyse de tout à l'heure. Tant que l'enfant n'a l'impression que de recevoir, il se révolte. Il est fort possible que des conduites pathologiques comme l'anorexie ont cela dans la racine. À la racine comme cause. Bon, c'est plus compliqué l'anorexie. Il y a un peu cela. Pour vous dire comment ça se soigne en milieu traditionnel, lorsqu'on perçoit qu'un enfant est anorexique, on va l'envoyer manger chez la tante. Alors la nourriture de la tante, il la mange, mais la nourriture de la mère, il la mange pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que recevoir et que cela, à l'éveil de la conscience morale, il y a un blocage de révolte. Et ça se rattache un peu à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Le temps est arrivé de donner, mais il faut avoir la sagacité d'attendre que ça soit pris. Parce que sinon, c'est pas Betikoun, c'est pas en ordre. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? C'est peut-être un peu plus clair. Ou alors on s'arrange pour dire, vous savez, pas la peine de faire de grève, vous avez raison, il faut aller chez le trésorier pour dire on a droit à des stratégies de ce genre. Ken.
Est-ce que mon salut...
Sinon on a des grèves rentrées. Ken.
Est-ce que mon salut est un droit? Si je dis ça, je suis sûr que je ne le mérite pas et que je suis tout à fait à côté. Autrement dit, je passe de la politique et charité, de la notion d'avoir et d'être, nous en arrivons jusqu'à la perversion de la doctrine de Madame Guyon et du guillotisme, qui est peut-être une perversion au sens freudien, moral du monde, mais non pas une perversité, parce que nous avons bien vu tous ensemble maintenant que la charité est une attitude de l'être, oui. Et non pas de la, et que l'avoir est accessoire.
Et la réponse, vous l'avez dans le Deutéronome, il y a plusieurs versets qui disent ceci, ne croyez pas que je vous ai choisi pour vos vertus, c'est parce que j'ai aimé vos pères. Et pourtant, c'est dit dans une loi qui nous demande 613 vertus. Vous comprenez un peu le problème. Kilo, atzit kotechem. Il y a quelque chose de très joli dans un commentaire de Rabbi Moshe Darshan que Rashi cite. Rabbi Moshe Darshan de Narbonne que Rashi cite. Et à propos du verset qui atem hamat mikola amim. Ne croyez pas parce que vous êtes un grand peuple que je vous ai choisi, dit Dieu à Israël, car vous êtes hamat, le plus petit de tous les peuples. Que ça vient faire là-dedans. Et le verset enseigne, car j'ai aimé vos pères. Je pense que vous voyez le lien avec votre question. Okay? Alors, Rashi, citant Rabbi Moshe Darshan, dit, parce que vous êtes cinq de moins que tous les peuples. Hemehat, qui a thème Hemehat, vous êtes cinq de moins que tous les peuples. Et effectivement, dans le dernier dénombrement, dans la parasha de Pinchas, on s'aperçoit qu'il n'y a que 65 noms en Israël, à la génération de la sortie d'Égypte, alors qu'il y en avait 70 à la génération de la descente en Égypte. Entre-temps, la Torah nous a raconté les fautes graves qui ont été faites dans le désert. 5 noms ont disparu. C'est plus précis que ça. 6 noms ont disparu, il y avait 71 pour les 70. Bon, on n'a pas trop rentré dans des analogies avec les protocoles des sages de Sion. Mais vous savez qu'il y a la multiplicité des nations, c'est 70. Et Israël doit arriver à un stade de multiplicité jusqu'à 70 visages dans la famille de Jacob pour commencer le lien avec l'universel humain. C'est clair ce que je dis là? Mais il faut, le chef de la famille, c'est 71. Et s'il y a 71, la Shrina se dévoile et ça fait 72, pour ceux qui connaissent le sens de ces chiffres. Ken, Ein Bet. Et alors effectivement, à la descente en Égypte, dans la généalogie que vous avez dans la parasha de Vaïgash, il y a 70 visage de la famille de Jacob. C'est rappelé dans le premier verset du livre de l'Exode. Ils étaient descendus au nombre de 70. Et puis il y a la mise à l'épreuve d'identité en tant que société dans la marche au désert. Et on s'aperçoit qu'il y a la faute de Korach, il y a la faute de Nadab et Abihu, il y a la faute de Selofrad, et la faute des enfants d'Aaron, c'est Nadab et Abihu, et comment s'appelaient les deux Ma Datan et Abiram, de la tribu de Réhouven. Ça fait 6 noms qui disparaissent, et à chacun d'entre eux, dans la généalogie de la paracha de Pinchas, la Torah explique leur faute. Okay. Il y a d'ailleurs une cohérence. La faute de Korach, c'est la rivalité contre Moïse. La faute de Nadab et Abihu, c'est la faute des chefs, des rois. La faute de Datan et Abiram, c'est la faute des rois. Nadab et Abihu, la faute des prêtres. Et la faute de Selofrad, du stam juif qui viole le Shabbat. Et alors les filles de Selofrad, qui sont au nombre de 5, réclament l'héritage de leur père et restituent 5 noms. Alors il n'en reste que 65 plus 5 avec identité féminine. Et alors, in extremis, il en reste quand même 70 avec cette faiblesse des 5 noms des justes de filles de Selofrad. Vous voyez comment ça marche, ces mystères-là. Et alors il en résulte qu'il manque encore le 71e, c'est la faute de Korach, la marloquette. Et c'est pourquoi cette faute de Korach est inexpiable jusqu'à la fin des temps. Les autres sont colmatés par la vertu des filles de Selofrad, qui restituent 5 noms. Alors Rashi explique par allusion tout cela à propos de ce verset, car vous êtes 5 de moins que les peuples. Et on exprime ça dans la Kabbalah, je veux le dire de façon très ramassée, par le fait que le mot de Adonai devrait s'écrire Aleph Dalet Nun Aleph Dalet Vav Nun Yud, et la valeur numérique serait 71. Mais il est toujours écrit sans le VAB, et la valeur numérique n'est que 65. Vous voyez les cabanotes de lecture chaque fois qu'on rencontre ce mot-là. Okay. C'est-à-dire, même sans le VAB, il y a présence de la communauté d'Israël, mais avec cette espèce de faiblesse, il manque une présence par 6. 5, c'est colmaté, alors il en manque un. Tant qu'il y a la marloquette, la sinat hinam, vous connaissez tout ça. Alors je vais vous citer un dernier drash là-dessus, et après on retrouve, après l'Afsaka, Lot et Abraham, sur le texte de la Bible. C'est que la marloquette a été créée, nous dit le Midrash, le deuxième jour. La séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et la marloquette est indispensable pour que le monde fonctionne. Si les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ne sont pas séparées, il n'y a pas de monde. Donc, alors la marloquette est créée le deuxième jour et Dieu sépara. Et alors c'est pourquoi dans le récit de la création, il n'y a pas écrit et Dieu vit que c'était bien le deuxième jour. C'est un enseignement du Maharal. Même la marloquette, l'Echem Shamaïm, pour que le ciel existe, l'Echem Shamaïm, vous suivez le remèze, Snoua marloquette, elle est haïe. Même s'il y a un objectif positif pour l'existence du monde, c'est haï. Et l'indice, c'est que le deuxième jour, eh bien, il n'y a pas écrit dans le récit de la création, vérifié. Il n'y a pas écrit, et Dieu vit que c'était bien. Le troisième, il y a deux fois, pour compenser. Donc. Et alors, nous avons tous les jours à la prière. À la fin de la prière, on dit un psaume. Le psaume du premier jour, le psaume du deuxième jour, le psaume du troisième jour. Vous savez cela. Et alors, le deuxième jour, on dit un psaume des fils de Korah. Vous avez remarqué?
Oui.
Ça veut dire que c'est la descendance de Korah qui fait le tikkun de la faute de Korah au deuxième jour. Ubne Korah l'ometu. Et c'est-à-dire que finalement, en typologie ontologique, disons, eh bien, tous ces défauts d'identité qui ont résulté de la mise à l'épreuve de l'Assemblée d'Israël dans l'histoire sont colmatés grâce, en fin de compte, au mérite des Nashim Satkaniot, des femmes justes. Cet épisode des cinq filles de Noach était, de Korach est extraordinaire dans la Torah. Okay. Et sauf une faute qui demande encore à être colmatée, le tikkun ultime, la sinat hinam, c'est-à-dire la haine gratuite, la controverse dans ce cas-là de mauvais. Et ça se rattache donc à notre sujet, l'exposant des 70 visages d'Israël par rapport aux 70 nations qui permet le lien entre Israël et l'universel humain. Et je terminerai en citant un enseignement du Shlah. C'est le message que Joseph avait envoyé à Jacob pour lui faire signe, que se faire reconnaître de lui. Je suis non seulement vivant, mais le roi de l'Égypte. L'exil doit commencer. Le lien avec l'universel humain. Et ça a commencé pas comme un exil, comme une dispersion positive pour le lien avec l'universel humain. C'est clair. Et voici comment le Shlal enseigne, en se basant sur l'enseignement du Zohar. C'est que Joseph envoie des chariots chargés de présents à Jacob, son père. Et le texte porte un mot inhabituel, le mot de Agalot, les chariots. Et alors, je me souviens de ce premier enseignement avec M. Gordet. Okay. C'est que c'était un message chiffré. Vous allez visualiser. Agalot, ça s'écrit Aïn, Gimel, Lamed, Vav, Tav. La Agala, la carriole. Okay. Alors, le Zohar lit comme ça. Il y envoie un message chiffré. Les 70 doivent descendre en Galout. Aïn Galout. Ça fait Agalout. Oui. Okay. C'est-à-dire le temps de la Galout a commencé parce qu'il y a suffisamment de différenciation des visages d'Israël pour prendre le relais avec l'universel humain. Voilà, ceci fait partie du même sujet finalement. Vous suivez cela? Attends, juste une phrase. On est obligé de parler français, alors chaque fois on dit exil, diaspora, mais le premier stade de la présence d'Israël en Égypte n'était pas exil dans le sens dispersion de persécution. C'était dans l'honneur et la gloire, la société d'Israël prenant en charge la civilisation égyptienne au temps de Joseph. Ensuite, Joseph est mort, etc. etc. Vous suivez, hein? Top.
Sur radio communautaire aussi, il y avait une émission sur Jacob Gordin.
Ah bon?
Oui. Dimanche.
Bonjour.
Oui, enfin, la première, enfin, bon, une édition brève, mais intéressante. Et ils ont cité un texte. J'accorderai sur la galerie.
Oui.
Mais j'ai pas noté les éléments.
C'est dans l'aspect du génie d'Israël.
Oui, oui.
C'est un texte qui a été rédigé par Georges Lévit. Parce que M. Gordin a très peu écrit, il nous a laissé que des notes. Et c'est pas une émission de Jacques et l'Adam, moi je
sais pas.
Et j'y suis. Donc, alors, on va prendre une petite afsaka et on.